Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Aujourd'hui, la Rédac Pop va se pencher sur des sujets tabous de la société, des sujets tabous dont il faudrait parler plus souvent parce que la parole libère. Évidemment, ce n'est pas vous, auditeurs, auditrices de la radio, qui nous contredirez. Vous avez forcément un certain attachement à l'expression de la parole humaine parce que déjà, elle vous accompagne chez vous pendant que vous êtes dans votre salon ou peut-être dans votre voiture. Donc voilà la parole qui peut accompagner les solitudes, qui peut combler l'ennui. Et puis qui peut permettre aussi pour certaines personnes de soulager une âme en détresse, une âme en souffrance. Ça peut arriver à tout le monde, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que le corps qui souffre, il y a également des fois l'esprit, la psyché. Voilà, ce qui se passe dans notre cerveau des fois nous échappe, c'est encore très complexe, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Toujours est-il que nous avons en commun, entre êtres humains justement, cet art de la parole que l'on peut cultiver entre nous, développer, imaginer d'ailleurs. On peut aussi souligner l'importance de l'imaginaire. Et l'imaginaire, des fois, suscite des angoisses. C'est ce qui s'est passé récemment, notamment avec cette crise mondiale du Covid. Beaucoup de jeunes ont été touchés par cette crise sanitaire, mais aussi d'un point de vue psychologique, surtout plutôt d'ailleurs que physiologique, d'une manière physiologique. Et ils se sont imaginés plein de choses sur la mort, sur l'avenir. Et tout ça a suscité des angoisses et on constate malheureusement une augmentation de la dépression et des tentatives de suicide ou des suicides chez les jeunes au cours des derniers mois. Et nous allons justement parler avec des jeunes de ces sujets tabous, à savoir la santé mentale, donc avec Malo, Cristal, Elena et Sovan. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Bon, les mots sont importants.
Bah, l'interprétation est propre à chacun, surtout.
Eh oui. Un peu comme les rêves, d'ailleurs.
Exactement.
Et je souhaitais qu'on parle, par exemple, d'un sujet très tabou dans notre société, le suicide. Sujet tabou, pas tabou, qu'est-ce que vous en pensez ?
Très tabou, je trouve.
Je pense que ça dépend des milieux, et ça dépend des personnes avec qui on en parle. C'est un sujet qui... revient de plus en plus dans l'actualité. Donc je pense que ça se démocratise un peu plus et les gens ils s'y intéressent un peu plus. Après, certes, à détecter, c'est encore très très difficile à en parler. Enfin, ceux qui font souvent des tentatives de suicide ou autre, c'est très difficile à exprimer. Mais je pense que dans les années à venir, on va sans doute être amené à plus s'exprimer là-dessus et je pense qu'aujourd'hui on est avec des personnes intéressantes pour discuter du sujet. Je vais laisser la parole à mes collègues aussi.
Je pense que c'est tabou dans deux sens où effectivement comme tu l'as dit c'est tabou sur le fait d'en parler et tout et ça faut que ça change et tout, mais c'est aussi tabou sur les gens qui veulent se suicider, ils ont pas forcément envie d'en parler. Et c'est tabou dans ce sens-là, je sais pas si vous me comprenez.
Ça touche à la mort, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu n'as pas forcément envie de... C'est hyper privé, quoi.
C'est ça. C'est des sujets
que
tu peux pas...
Tu peux ne pas avoir envie que les gens soient au courant parce que tu n'as pas envie qu'ils soient au courant ou aussi pour ne pas les inquiéter. Il y a un tabou aussi par rapport à...
Par rapport à ne pas inquiéter son entourage.
C'est ça.
Et par la peur de ne pas recevoir l'aide que l'on espère aussi, que ce soit une aide morale ou une aide pour des démarches, pour obtenir une aide morale, une aide médicamenteuse, des choses comme ça. On n'est pas toujours sûr de taper au bon endroit quand on demande de l'aide.
Puis on peut avoir peur du jugement aussi.
Ouais, c'est ça, il y a le jugement.
Ouais, de ne pas être compris et que la personne en face ne réagisse pas comme on l'espérait.
Oui, ou ne réagisse pas tout court du tout, ou même dans le pire des cas, et ça arrive encore aujourd'hui, comprennent ça comme un acte égoïste, en fait. Parce que comme on a pu échanger avec Malo tout à l'heure, ça peut être perçu comme un acte égoïste parce qu'on ne pense pas forcément à l'impact que ça aura autour de nous, dans notre cercle peut-être familial ou amical. Mais en fait, les personnes qui arrivent à ce stade-là, c'est que...
C'est
en fait, Voilà, c'est un trop, c'est un tout, et c'est même pas, elles veulent se suicider pour mourir, c'est, elles pensent même pas à la mort, je pense, à ce moment-là, c'est, ouais. Elles veulent juste arrêter de souffrir.
Oui, le soulagement, c'est ça.
Voilà, c'est un soulagement, sauf que, bah, en fait, c'est pas temporaire, c'est définitif. Ouais. Et je pense que bah, Malou, il nous a très bien expliqué tout à l'heure, et je pense que je vais lui laisser la parole pour approfondir. T'es dans un état, que ce soit euphorique ou même tellement triste, que tu commets des choses peut-être irréparables, en fait, ouais. Si t'es pas pris à temps.
C'est pas parce que tu fais l'acte de suicide que t'as envie de mourir, en fait. Mmh. Ça, c'est deux choses différentes. Mmh. C'est que t'as envie que ça s'arrête, de passer à autre chose, que... Mmh. Que ça s'arrête, quoi.
En fait, de se faire souffrir permet d'oublier. Ouais. Quand je parle se faire souffrir, c'est se faire souffrir physiquement. Hein.
Se mutiler, se scarifier.
Voilà, il y en a beaucoup qui se scarifient, qui se mutilent, qui prennent des médicaments, qui prennent des produits chimiques, enfin, peu importe, de l'alcool, qui se mettent dans des états minables, en fait. Mais c'est juste pour ne penser qu'à la douleur physique à ce moment-là et oublier un peu tous les parasites qu'il y a autour qui font qu'on se sent mal en réalité, en fait. Donc, je pense que quand quelqu'un veut se suicider, bon, je pense, après, c'est différent, c'est propre à chacun, hein, c'est peut-être la réaction est propre à chacun, mais généralement, c'est comme quand on a une peine de cœur, ben, on préfère se faire mal, y a différents sens du terme, hein, ça peut être aller faire un footing, au lieu de faire 45 minutes comme d'habitude, ben, tu vas te repousser dans tes retranchements, tu vas y aller pour une heure et demie, parce qu'en fait, tu vas te concentrer que sur ça et tu vas pas penser à ce qu'il y a à côté. Donc je pense que c'est un moyen aussi de s'évader sans penser en fait, au réel danger qu'il peut avoir derrière.
Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses. Tout à l'heure, vous disiez que les personnes peuvent, risquent d'être jugées, ont peur d'être jugées, justement, et que cela soit considéré comme un acte égoïste. On est dans une souffrance du moi, en fait, quand même, d'un point de vue psychique. Je pense à toi qui nous parles d'aller courir, par exemple, une heure et demie. C'est peut-être aussi s'échapper de son esprit.
Oui, voilà, c'est vraiment... pas ne pas être conscient de ce qui nous arrive, mais justement, ça va paraître un peu irréel ce que je vais dire, mais en fait, se mettre dans la peau d'une autre personne. Enfin, le fait d'aller courir une heure et demie, bah, à un moment donné, c'est la tête qui prend le relais et tu ne peux plus penser à... Tu ne peux plus penser à ce qui te fait mal ou à ce que je vais faire après ou à ce que... Tu te concentres sur ta course, sur ton corps. Et c'est vraiment se retrouver avec soi-même, mais en oubliant ce qui nous fait mal autour, en fait. Je pense que c'est un réel... on se ressente vraiment sur soi à ce moment-là. Et ça nous permet vraiment de nous évader. Enfin, je dis nous, mais je parle bien évidemment des personnes dans cette situation.
Un anxiolytique naturel, en quelque sorte. Comment justement échapper à ses angoisses ou justement soigner ses angoisses tout simplement en pratiquant une activité physique. Ça fait beaucoup de bien, ça, à la tête, en fait. Pas seulement au corps, mais aussi à la tête.
J'en ai beaucoup entendu parler de ça, du fait que effectivement, le sport, c'est vraiment quelque chose pour évacuer et penser à autre chose. Ça arrive beaucoup que quand quelqu'un va mal, on lui dit « va t'aérer l'esprit, fais quelque chose, bouge », et en général, apparemment, ça fonctionne. Après, ça dépend de chacun, encore une fois.
Je pensais aussi au sentiment de culpabilité de la société qui culpabilise. Donc, oh, c'est un acte égoïste, tu n'as pas le droit de ne pas aller bien, on t'a donné la vie, comment est-ce que tu peux justement souhaiter y renoncer? Il y a quelque chose de très moraliste aussi qui empêche les personnes qui sont en détresse psychique, qui ont des idées suicidaires, de se confier à leur entourage.
Moi, j'aimerais carrément élargir le sujet, pas simplement sur le suicide, mais sur la souffrance psychologique et la maladie mentale de manière générale, et sur le fait, ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, le fait de se confier, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychophobie, à mon sens, dans les réactions, que ce soit du système scolaire, du monde du travail de manière générale, de la médecine et notamment de la psychiatrie, qui a ses bons points, mais surtout ses mauvais, et qui fait preuve parfois, enfin, qui cause parfois bien plus de souffrance qu'elle n'apporte de réponse pour les personnes qui sont atteintes de maladies, pathologies psychiatriques, et qui a quelque chose qui du coup est de l'ordre de l'auto-invisibilisation, c'est-à-dire on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule si jamais on se confie sur ce genre de sujet. On va soit nous faire culpabiliser sur notre état de manière générale, mais pourquoi tu te bouges pas un peu le cul, mais c'est dans ta tête, mais voilà, bon, justement, c'est dans la tête, mais ça veut pas dire que c'est pas quelque chose d'important, tu fais aucun effort, t'essaies pas d'aller mieux, etc. Et ça, c'est des commentaires qu'on entend beaucoup, que ce soit des parents, que ce soit de l'école, du monde du travail. C'est extrêmement compliqué de tenir un rythme scolaire et un rythme de travail quand on est atteint d'une maladie mentale. Et c'est des choses qui sont pas du tout prises en compte. C'est des choses qui n'améliorent pas la vie des personnes malades. Le système psychiatrique, à mon avis, n'améliore pas non plus la vie des personnes malades. Et donc c'est ça aussi qui empêche les gens de se confier, qui empêche les gens d'en parler et parfois d'aller rechercher de l'aide. C'est le fait que systématiquement ils vont savoir que dans la société dans laquelle on vit, ils n'auront pas l'aide qu'ils demandent, ils n'auront pas les aides qu'ils demandent, ils n'auront pas l'écoute.
Alors, c'est
un avis assez radical,
oui, très
en effet,
tranché, oui.
Très tranché et que je revendique complètement, mais d'expérience de gens que je fréquente, d'expériences diverses et variées, tous les gens que j'ai pu fréquenter ayant eu une pathologie psychiatrique ou besoin à un moment de consulter des psychologues, des psychiatres et qui ont même fait la démarche très courageuse d'en parler à leur entourage, d'en parler à leurs parents, à l'école, dans le lieu dans lequel ils travaillent, n'ont jamais eu l'aide qu'ils auraient dû avoir. Les organismes dans lesquels ils étaient, que ce soit scolaire, etc., n'ont jamais eu des réactions adéquates parce qu'elles avaient les réactions de personnes qui ne sont pas atteintes de maladies psychiatriques, qui ne sont pas atteintes de pathologies, qui donc ne peuvent pas comprendre intégralement quelle est la situation. Voilà, une dépression, ça peut être pris pour un petit coup de blues, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça et il faut être en capacité de s'en rendre compte, notamment quand on est infirmière scolaire, quand on est médecine du travail, etc., être capable de s'en rendre compte et de proposer autre chose que simplement l'exclusion sociale. Il faut que la société aujourd'hui soit capable de proposer des moyens d'intégrer ces gens qui souffrent au sein de la société, pas seulement en les éloignant dans des hôpitaux psychiatriques où ils sont parqués, mais qui puissent avoir accès aux mêmes droits que nous, avec un principe qui n'est pas un principe d'équité, mais un principe d'égalité.
Alors, on va quand même mitiger le propos, Sauvane, dans la mesure où il y a des personnes quand même qui trouvent du réconfort chez des psychologues.
Ah oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Moi, il y a pas de souci. Moi, je reproche pas aux gens. Moi, déjà, je reproche rien aux malades psychiatriques. En fait, c'est pas eux qu'on doit faire des reproches. Ils sont pas responsables de leur situation. Et d'ailleurs, de manière générale.
Ah voilà. Donc, c'est ça que tu dénonçais quand tu parlais de psychophobie. Qu'est-ce que tu entends par psychophobie ?
Psychophobie, c'est quelque chose qui. D'ailleurs, ça va me permettre de faire. De bien clarifier mes propos. Moi, je ne suis pas là pour culpabiliser des individus, je suis là pour dénoncer des structures, parce que la psychophobie, c'est une discrimination qui est structurelle, qui est sociétale. C'est le fou est dangereux. Le fou doit être parqué, le fou doit être écarté de la société, le fou n'est pas en passe avec notre monde. Et que ça, ce soit vrai ou non, Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exclusion, que ce soit pour une dépression, que ce soit pour la schizophrénie, notamment qui est une maladie très 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 mal vue socialement. Voilà, c'est un truc général, c'est un truc structurel d'exclusion qui, je trouve, est inacceptable.
Bon, après, il y a quand même des personnes qui sont vraiment dans des états de démence dont il est, il y a la camisole chimique ou l'enfermement, c'est vrai.
Mais la camisole chimique et l'enfermement, ça fait partie des choses qui, moi, je considère comme des violences psychiatriques, totalement. Et je pense qu'il y a de meilleures méthodes de faire. Je pense que déjà, il faudrait beaucoup plus de conversations entre patients et médecins, une relation de confiance. Et moi, je serais pour que ce soit les malades, les fous, qui fassent la psychiatrie. La psychiatrie, elle ne peut pas être fait par des gens qui sont sains d'esprit, parce que c'est des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. La psychiatrie, elle ne peut pas être faite que par des gens qui sont sains d'esprit.
Je crois que Malo voulait intervenir, oui.
Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je ne suis pas totalement d'accord. Vas-y. Ça reste que, même si sur tous les professionnels, bien sûr, il y en a qui ne vont pas être assez pro, mais ça, c'est dans tous les milieux. Mais au bout d'un moment, ils ont fait des études là-dedans. Ils sont pas venus nulle part, tu vois. Donc,
c'est ça, mais du coup.
Ils connaissent leur sujet, tu vois. Ils ont fait un master, un doctorat là-dedans, ils connaissent leur sujet.
Mais du coup, est-ce que c'est pas la façon dont on leur enseigne la psychiatrie qui est le problème ? Est-ce que la façon dont, par exemple, a été fait le DSM, c'est une bonne façon de faire ? Est-ce que la façon dont a été construite la psychiatrie,
c'est une bonne façon de faire ? Alors, le DSM, on va préciser pour les auditeurs auditrices, c'est le manuel de référence donc qui sert à répertorier toutes les maladies mentales. D'ailleurs, le nombre de maladies mentales ne fait qu'augmenter et il a été notamment reproché à ce fameux DSM dont se sert la médecine française, parce que c'est un manuel qui est originaire d'Amérique, d'avoir des liens avec l'industrie pharmacologique. Et c'est pour ça qu'on peut des fois s'interroger sur certains troubles de l'hyperactivité et de la rétaline, par exemple, exemple qui va avec, pour traiter l'hyperactivité chez les enfants, etc. etc. J'ai l'impression, Sylvain, ce que tu es en train de faire, toi, c'est tout simplement, tu te permets de questionner la psychiatrie,
le système
psychiatrique.
Mais je pense qu'il faut le questionner, bien sûr. C'est bien comme sûr. Ça qu'avance un système. Bien c'est sûr. Pas parce que c'est quelque chose qui a été établi depuis des années qu'on ne peut pas le questionner. Et je trouve que c'est important pour la progression, pour l'évolution de ce système-là, d'être questionné.
Et sans aller justement à des troubles qui sont répertoriés, tels que la schizophrénie, la paranoïa, etc. Là, on était juste en train de parler, par exemple, d'idées suicidaires ou alors de déprime, de dépression, hein, sans aller justement à cet extrême. Mais c'était un peu pour expliquer pourquoi c'était si mal vu de ne pas aller bien dans sa tête, quand même.
Moi, je pense qu'il y a aussi...
Oui, Elena.
Je pense qu'il y a aussi une forme de désinformation de la part des personnes qui n'en sont pas atteintes ou alors qui n'ont pas un proche qui est dans ce cas, parce que c'est vrai que ne serait-ce que même le TDAH, donc tout ce qui est hyperactivité, trouble de l'attention, ce genre de choses, je trouve que c'est quand même assez mal compris par les gens en règle générale. Et je pense qu'à l'école, il faudrait introduire ce genre de sujet où on prévient que c'est pas grave d'être pas bien, c'est pas une honte. C'est pas parce que tout va bien dans la vie qu'on est obligé d'être toujours au top de notre forme tout le temps. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit de se sentir mal, même si certains peuvent considérer ça comme de la faiblesse, mais certaines personnes développent des dépressions, ce genre de choses, à cause d'un événement en particulier. Et il faut se dire que chacun le vit différemment et tout le monde ne réagit pas de la même façon à différentes situations. Donc il ne faudrait pas minimiser le malheur de certains et pas leur dire « c'est rien, ça va passer, tu as tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux, repenche-toi sur autre chose ». En fait, c'est le cerveau, et je pense qu'encore aujourd'hui, beaucoup de médecins pourront peut-être le confirmer, mais le cerveau, c'est encore un énorme mystère.
Puis la psychiatrie, c'est super jeune, comme médecine.
Oui, c'est vrai, c'est une science assez jeune, qui n'a même pas un siècle. Alors, je vais vous donner un autre exemple, et vous allez me dire, j'attends vos réactions. Donc, de plus en plus, récemment, au cours des dernières années, de la dernière décennie, on a vu apparaître le trouble de phobie scolaire. Donc, des enfants qui ont peur de l'école et qui sont atteints de phobie scolaire et donc qui seraient, entre guillemets, malades parce que phobiques d'un point de vue scolaire. Dire que l'enfant est atteint de phobie scolaire, ça permet aussi de ne pas remettre en cause le système scolaire, qui peut être très anxiogène. Il y a à la fois du harcèlement, il y a de la compétition, il y a des fois des méthodes pédagogiques pas forcément adaptées. Alors oui, il y a des enfants qui sont très hyperactifs, mais peut-être qu'ils s'ennuient tout simplement à rester assis sur une chaise. Donc on peut pathologiser, rendre malade l'individu et l'exclure justement plutôt que de remettre en cause le système dans lequel il grandit. Enfin là, il était question de l'école, mais on peut transposer cet exemple à plein d'autres exemples. C'est-à-dire que traiter une personne ou considérer une personne comme malade psychiquement ou psychiatriquement, des fois ça va être aussi un moyen, un raccourci intellectuel, de paresse intellectuelle pour remettre en cause un système bien, bien plus vaste. Alors je sais pas, il y a Crystal par exemple qui a fait du sport et tu nous disais que par exemple il arrive que des sportifs de haut niveau prennent des anxiolytiques.
Oui, après...
Qu'est-ce que t'en penses toi ?
Alors pour ma part, je trouve que dans le sport de haut niveau, c'est très... La médicamentation est très facile en fait. Parce que c'est vraiment un problème de fond. Être sportif de haut niveau, c'est très dur physiquement, mais c'est très très dur psychologiquement également, parce qu'on a on est sans cesse en compétition. On a une pression constante. Même si c'est de la pression indirecte, en fait, on se la met automatiquement. Ah, est-ce que je vais être sélectionné pour ce tournoi ? Les Jeux, c'est dans 4 ans. Est-ce que je vais être dans les clous ? Et en fait... on arrive à des moments dans notre carrière, notamment à l'approche de très très grands événements comme les Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, où forcément la pression monte d'un cran. Donc on a tendance évidemment à se tourner vers des personnes qui peuvent nous aider afin d'éviter tout ce qu'on appelle le burn-out, dépression, enfin tout ça. Et en fait, dans ce milieu-là, à l'approche de grandes compétitions comme ça ou de grands événements, on ne peut pas se permettre de dire « Ok, tu commences à faire un burn-out, tu vas partir 6 mois en vacances ou te reposer, te ressourcer et tu reviens dans 6 mois quand ça va mieux. » Ça ne se passe pas comme ça parce que derrière, je vais prendre en exemple le sport que je pratique, c'est une personne qui ira à la compétition. Donc en attendant, si c'est toi la titulaire et que tu fais un burn-out et que tu as besoin d'aller te reposer, derrière, il y a la queue. Donc, en fait, c'est une pression constante. Et donc, pour éviter ça, bah, ils ont la facilité à justement prescrire des anxiolytiques, des somnifères, parce que bah, du coup, t'es anxieux, t'es pas bien, t'es en stress total tout le temps, pour dormir, te reposer, pour te forcer à te reposer. Et en fait, je pense juste que dans ces moments-là, et en général, hein, comme on parlait de l'école juste avant, de l'exclusion, parce qu'en soi, un athlète qui fait un burn-out, c'est l'exclure du système juste pour qu'il remette les pieds sur terre. Mais une fois que tu remets les pieds dedans, tout redevient comme avant parce que le système ne change pas.
C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête.
Exactement. Et donc, en fait, je pense qu'il mériterait plus dans ces milieux-là, que ce soit à l'école, au travail, en psychiatrie, enfin, dans tous les milieux, il mériterait d'avoir un peu plus de compassion pour les gens qui, parfois, peuvent avoir un petit problème mental, un petit problème psychique. Je pense que la compassion est nécessaire et c'est pas l'enfermer dans une chambre, te donner des cachets, te dire de partir 6 mois ou t'exclure, t'es un peu turbulent, tu peux pas faire partie de cette classe parce qu'en fait tu déranges tout le groupe. Non, je pense qu'il mériterait d'avoir un réel accompagnement pour ces personnes-là et pas seulement camoufler tout ça soit en excluant la personne ou les personnes ou en camouflant tout ça par des médicaments. Enfin, je trouve ça vraiment horrible en fait. Parce que indirectement, même si c'est pas dit explicitement, on t'exclut du système pour te retrouver, mais ça disparaît vraiment jamais. Ça disparaît jamais, en fait.
Alors, tu parlais de compassion, d'empathie. Ça me fait penser à tout à fait l'inverse. Hein. Donc, on est aujourd'hui, on entend parler vos informations de guerre en Ukraine. Quoi d'autre encore ? Enfin, on a pu entendre aussi au cours des dernières présidentielles des propos très xénophobes envers nos frères et sœurs migrants, par exemple. Un manque d'empathie. Enfin, les exemples ne manquent pas dans l'actualité, dans les informations quand même. Enfin, je prenais cet exemple de la guerre, tout simplement. On est dans une société quand même qui, des fois, est assez violente aussi. C'est normal. Je pense que certaines personnes dépriment.
Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de la même empathie, en fait. Être empathique ou avoir de la compassion pour quelqu'un qui est malade psychologiquement, tu n'auras pas la même compassion pour un migrant qui vient de traverser la mer Méditerranée.
Non, ce que je disais, c'est que le discours médiatique ne faisait pas preuve d'empathie déjà.
C'est depuis longtemps et ça a toujours été comme ça. Si on revient à parler, je vais rebondir sur ce que disait Elena, à l'école, un enfant turbulent, aujourd'hui, en fait, c'est le système, enfin je pense, hein, que le réel problème se trouve dans le système dans lequel on vit actuellement. Un enfant autiste, il y a différentes phases d'autisme, il y a différentes formes. Un enfant autisme est autiste est capable d'assurer des cours, de faire partie d'une classe normale, mais d'avoir une ATSEM. Sauf qu'aujourd'hui, on est en manque d'ATSEM. Y a un réel manque d'accompagnement en fait, pour ces personnes-là. Et c'est pareil dans les hôpitaux psychiatriques. Je pense que je pense que c'est un travail de fond.
Il y a une manifestation là fin juin justement. Il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui vont descendre dans la rue par manque de personnel parce qu'il y a de plus en plus, comme tu le disais, de médicamentation et que cet aspect compassionnel, empathique, il ne veut pas être fait avec des médicaments. C'est dimension humaine en fait dans le traitement de la souffrance psychique. Oui.
Ce que je disais, c'est que c'est un milieu violent, violent notamment pour les infirmières en psychiatrie qui en prennent plein la gueule parce qu'elles se font traiter par les médecins comme de la merde et parce que parfois, c'est sûr que quand un patient a une crise ou quelque chose comme ça et qu'elles sont toutes seules et qu'elles n'ont pas forcément été formées pour gérer ce genre de choses, pour faire preuve d'empathie parce qu'elles sont dans le stress, parce qu'elles sont toutes seules pour gérer un service, en effet, il y a moyen de vouloir quitter le milieu et il y a moyen de... Enfin, vraiment de péter un câble, quoi.
Un sentiment d'échec hein, aussi, de ne pas faire le travail dont on avait rêvé.
Et puis sous la pression, sous le manque d'effectifs, sous le manque d'argent, c'est plus dur de vendre l'empathie à des gens. On dit soyez empathique, soyez gentil. Mais en fait, s'il n'y a pas les moyens pour faire les choses bien, ça ne sert à rien. L'empathie, ça ne sauve pas des vies.
Je pense aussi surtout, pour rebondir sur ce que dit, Sauvane, il me semble que dernièrement, dans les actualités, il y a une ou deux infirmières qui ont été tuées hein, dans un hôpital psychiatrique. je pense qu'elle devrait être plus accompagnée. Et puis, comme elle disait, ça pousse souvent à la démission à partir de ce métier-là. Et au départ, quand elle s'engage à faire ça, quand elle rêve de faire ce métier, hein, parce qu'être infirmière, je pense que c'est un métier que tu rêves de faire, c'est une réelle vocation. Parce que justement, il faut être très empathique, il faut être très compréhensible de la personne que tu as en face de toi. Aujourd'hui, pour elle, les médicaments, c'est leur solution. Parce que malheureusement, quand elles sont 3 pour 20 malades, elles ne peuvent rien faire. Et je pense qu'en fait, il y a ce sentiment d'échec. Et je pense aussi, surtout, qu'il y a un réel sentiment de culpabilité de ne pas avoir accompli sa mission, de ne pas avoir aidé comme on aurait voulu quand on s'est engagé dans ce métier-là. Mais ça, encore une fois, je pense que le système dans lequel on vit est ancré. Ouais,
c'est un problème structurel plus que personnel.
Voilà, c'est pas... tout à l'heure, Sauvane disait, oui, est-ce que les études sont mal faites ? Je ne pense pas que les études soient mal faites. Je pense que les études sont très bien faites. Mais c'est une fois que tu exerces ton métier, c'est toi, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as appris ? Parce que si t'as la flemme, forcément, le premier venu, t'es un peu stressé, tiens, prends ça, t'inquiète, ça va te calmer.
Alors, c'est ce qu'on peut reprocher justement dans l'état de la psychiatrie aujourd'hui en France, qui coûte beaucoup d'argent à l'État, au même titre que la santé, j'allais dire, physique, la situation sociale des hôpitaux, hein, la crise des urgences actuellement, et que de nombreux moyens sont mis dans la recherche scientifique, dans la recherche chimique, de nouvelles molécules pour traiter la dépression, les troubles bipolaires, etc., parce qu'ils permettent aussi, par ailleurs, de faire une économie de personnes. Et voilà où on en est quand même aujourd'hui. C'est assez triste quand même, constat qu'on est en train de faire. Alors, en même temps, tu nous as donné... Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
Je pense pas qu'on devrait mettre autant d'argent dans la recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Moi, je pense que les personnes qui sont... Alors certes, oui, il y a un réel besoin de médicaments dans situations.
Bien sûr, oui.
Mais je pense que une grande majorité, ou du moins une grande partie des gens qui sont malades ou qui deviennent malades, ils ont juste besoin d'un accompagnement physique, de quelqu'un qui les écoute sans jugement, de quelqu'un qui les accompagne, de quelqu'un qui prend le temps, en fait, avec ces personnes-là. Moi, je trouve ça pas normal de mettre autant d'argent dans la recherche de médicaments, de traitements, alors qu'aujourd'hui, on est en manque de personnel. On n'est pas en manque de médicaments. Mmh. Les médicaments, on en a des centaines et des centaines. Et la preuve, on en a tellement trop qu'on les envoie dans les pays qui sont en guerre, dans les pays où, en Afrique, où il n'y a pas de médicaments. Alors, j'ai rien contre ça. Mais en fait, aujourd'hui, comme je disais, le système est très, très ancré. Et je pense que c'est ça qu'on devrait changer. C'est pas investir dans des nouveaux médicaments, dans des nouvelles recherches de traitement. Parce qu'à part détruire la santé de la personne, parce que c'est pas le guérir, c'est camoufler, on va pas se mentir. Parkinson, tu prends des médicaments, tu trembles plus. 5 heures après, quand tu les prends pas, tu redeviens complètement taré. Je pense qu'il y a des réelles thérapies, pourquoi pas naturelles, mais prendre le temps. Et prendre le temps, aujourd'hui, ça ne coûte pas d'argent. Alors certes, oui, ça coûte de l'argent pour payer les gens qui vont le faire, mais le temps est gratuit et précieux. Et je pense que ces gens-là ont juste besoin d'attention, ont juste besoin qu'on prenne le temps avec eux, qu'on discute et qu'on aille chercher le vrai fond du problème.
Et répondre à leurs besoins.
Voilà, c'est pas leur donner un médicament pour les calmer, pour qu'ils dorment. Certes, ça les aide, mais je pense que le fin fond du problème pour les gens qui sont malades psychologiquement, c'est qu'ils ont besoin d'être écoutés. Pour avoir fait une fois un tour dans un hôpital psychiatrique, est-ce que je peux discuter ? Tu vas dans ta chambre. J'ai pas le temps. Je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. Mais on est dans un hôpital. L'infirmière est là pour discuter avec toi. Le médecin, quand il vient te voir le matin, oui, j'ai pas le temps. Vous prenez ça. Et puis, ça sera comme ça et pas autrement. Et on revient vous voir ce soir. Oui, moi, je comprends pourquoi les gens pètent les plombs.
C'est des êtres humains.
Voilà. En fait, ils sont traités comme des animaux en cage. Clairement, en hôpital psychiatrique, c'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité. Hein, et des reportages le prouvent très bien. D'ailleurs, ils sont très souvent censurés parce qu'ils montrent la réalité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un manque de personnes. C'est pas un manque de médicaments, c'est un manque de personnes, un manque de temps accordé à ces personnes-là.
C'est un manque de personnel qui, du coup, cause la déshumanisation des malades, des patients, des gens qui y travaillent.
C'est ce que tu nous disais tout à l'heure avec la béquille. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure avec la béquille.
Quand on a eu cette discussion la première fois, j'avais fait un parallèle que j'utilise souvent, c'est quand tu te pètes la jambe, mais bien 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 vénère, tu vas à l'hosto, on te fait un plâtre et on te file une béquille. on te retire le plâtre, on te laisse la béquille, on te dit « tu vas avoir besoin de rééducation ». Une fois qu'on a dit ça, on peut considérer que tu es malade psychiatriquement, tu as besoin d'une béquille. On considère les médicaments comme la béquille. Ok, c'est bien gentil, ça t'aide à marcher, ça calme. Les médicaments, ils sont là pour calmer les effets physiques de la pathologie psychiatrique. Donc ça calme. Mais si t'as pas de rééducation, si t'as pas d'accompagnement, si on répond pas à tes besoins, si on observe pas tes besoins et qu'on les prend pas en compte, et que du coup tu ne fais pas cette rééducation, rééducation de la jambe et du coup simplement accompagnement de la personne en difficulté psychique, tu auras toujours besoin de ta béquille. Mmh. Et le problème avec le système psychiatrique, enfin un des nombreux problèmes avec le système psychiatrique actuellement, c'est que ça se repose sur la béquille. Sauf que dès que t'enlèves la béquille, tu te pètes la gueule et voilà.
Mmh. Et t'as pas réappris à marcher. De moins en moins de psychologues. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir accès à une prise en charge psychologique pour les enfants et les jeunes. Alors il y avait Macron, enfin le président Emmanuel Macron, qui avait proposé 10 séances. Est-ce que ça suffit 10 séances?
Non, 10 séances, c'est pas une thérapie.
Souffrance. Il y a des psychologues qui n'ont pas joué le jeu parce que c'était des séances qui n'étaient pas à leur tarif conventionnel. On est dans un secteur marchand, bien évidemment. Le manque de psychologues, voilà, et qui fait que beaucoup d'enfants et de jeunes, des fois, sont désemparés. Alors, moi, je vais quand même, on va essayer de conclure positivement parce qu'il y a deux pistes qui nous ont été notamment données par Cristal. L'activité physique, voilà. Donc, effectivement, des fois, quand on est déprimé, c'est difficile de se mettre à courir. Mais quand même, voilà, on ne peut que conseiller aux personnes d'avoir une activité physique, que ce sera l'occasion, voilà, quand c'est possible, évidemment. Et puis aussi, l'empathie, la compassion, c'est-à-dire rester les uns, les unes, les autres à l'écoute des uns, des unes, des autres, qu'on s'écoute les uns, les unes, les autres. Et ça va souvent mieux une fois qu'on en a parlé. Voilà, il suffit d'en parler des fois, tout simplement.
Et sinon,
plutôt que garder ça pour ça. Oui, Elena.
Pour remplacer les médicaments, je pense que dans certains cas, on pourrait penser à la médecine alternative. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions liées à la médecine.
Tu penses à quoi alors, par exemple?
Par exemple, tout ce qui est méditation, acupuncture, des choses qui peuvent détendre les gens et les aider en fait à se détendre et arrêter de penser à ça plutôt que de donner des médicaments qui couchent la personne ou qui la rendent stone, entre guillemets. Je pense que la médecine alternative peut être une solution. Comme pour les animaux, on est en train de voir ça pour l'élevage. Je pense que ça peut être la même chose pour nous.
Alors, je peux témoigner, en tant qu'animateur d'Accès à l'expression radiophonique, il y a plein de publics auprès desquels je suis intervenu, donc en situation de handicap psychique. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont en dépression parce qu'incarcérées, donc dans les centres pénitentiaires, enfin, je pourrais donner d'autres exemples. Eh bien, le temps de l'atelier, ça allait bien, parce qu'en fait, elles ont pensé à autre chose. Ça leur a permis de s'évader, quand je parle des détenus. Mais c'est effectivement ce qu'ils me donnaient donc, enfin, comme exemple. Et c'est vrai que la pratique d'activité artistique, tout simplement, aussi, permet aussi de penser à autre chose, de s'évader, et puis des fois de dessiner un mal-être. Hein. Ça peut être le dessin, la peinture, le chant.
Et moi, j'aurais un autre conseil à donner aux personnes vivant le système psychiatrique ou ayant vécu le système psychiatrique, c'est de se rassembler entre elles, les gens qui en sont sortis ou les gens qui sont à l'intérieur, qui sont intramuros de l'HP, de se rassembler, d'en parler, éventuellement de s'organiser, de proposer des alternatives et de trouver un moyen de pas rester seul dans cette expérience de la psychiatrisation et de causer entre vous, quoi. Rassemblez-vous.
Oui, oui, oui. Et même entre gens qui, avant que ce soit que la souffrance ne soit là, pensez à prendre du bon temps les uns les autres et puis prendre les nouvelles les uns les autres. Et puis peut-être, alors je vais faire mon vieux réac, se détacher un peu des téléphones portables. Ça vaut pas un échange. Ça vaut pas des échanges humains. Bah quand même. Enfin, je veux dire, moi je parle avec mes yeux aussi, je parle avec ma bouche et puis même quand je vois vos têtes, ça me parle en fait. C'est comme ça. Et faut pas oublier cette dimension de la communication. Des fois, on communique à distance avec quelqu'un qui est absent quand même. Ouais. D'accord ? Enfin, quand je lis un livre, la personne est absente, l'écrivain, il n'est pas à côté de moi. Quand je suis au téléphone, la personne, elle n'est pas à côté de moi, elle est absente en fait. C'est une illusion de présence, c'est une écoute quand même, c'est pas si mal le téléphone. Mais ça ne vaut pas des échanges en présentiel, comme on dit.
Maintenant qu'on a connu le... aimez-vous. Avant qu'on crève tous.
Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec le fait de se détacher un peu du téléphone, mais c'est surtout... d'être un peu terre à terre, en fait, de se rappeler que bah, y a une époque où il n'y avait pas tout ça. Ok, certes, il faut vivre avec son temps, il n'y a aucun problème, mais justement, le fait d'être toujours connecté, toujours avoir voir la vie des réseaux, ah c'est comme si c'est comme ça, j'ai pas le droit d'être mal. Bah non, à un moment donné, si t'as envie de pleurer, tu pleures. Mmh. Et en fait, c'est vraiment le lâcher prise. Alors certes, c'est un travail de fond. Et encore une fois, on va revenir sur le même point. Apprendre à lâcher prise, c'est, ça se fait pas tout seul. Mmh. Ça se fait avec quelqu'un qui te donne de son temps, c'est son métier, pour apprendre à le faire. Mmh. Et dans le sport, c'est justement pour ça qu'on voit des préparateurs mentaux. Mmh. Ils nous apprennent à lâcher prise. Bah, c'est qu'un jeu, en fait. Mmh. Pourquoi te torturer autant l'esprit ? Faut que tu le prennes comme un jeu. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mmh. Et ça viendra peut-être plus tard ou ça viendra peut-être jamais. Mmh. Tout le monde ne peut pas être champion. Tout le monde ne peut pas être bien. Forcément, il y a des échecs, mais il y a toujours de la réussite derrière. Mmh. Après, la pluie vient le beau temps. Et moi, j'y crois vraiment à ça. Enfin, et je pense que tout le monde devrait y croire. Et justement, ça aide à parfois lâcher prise et se dire bah, « Aujourd'hui, je vais pas bien. Demain, j'irai sans doute pas bien. Mais après-demain ou dimanche, bah, il va faire beau, je vais sortir. Je vais aller m'asseoir près d'une fontaine. Je vais rencontrer des gens. Je vais... » Voilà, en fait, c'est vraiment le fait de lâcher prise et de relativiser. En
Le rapport au temps, quand même, dont tu parlais tout à l'heure, cette urgence des fois qu'il y a à aller bien, en fait. Il faut que ça aille bien tout de suite, maintenant.
C'est pas, en fait, c'est pas une urgence en soi. Pleurer pendant 6 heures et être heureux 1 heure, enfin, personne va te juger sur ça. Tu prends le temps dont tu as besoin. Chaque personne est différente, a des réactions différentes. Et je pense que, justement, la société devrait arrêter de mettre des classes, de dire « Ouais, bon, c'est bon, quoi. Ça fait 2 jours que t'es en train de pleurer, ça va.
Il faut user
Allez, sors, dépêche-toi. Oui, bah non. Bah, si j'ai envie de sortir et d'être mal, laissez-moi être mal et sortir. Et j'irai bien quand j'aurai envie d'aller bien ou quand je serai prête ou prêt à aller bien, en fait. Faut juste laisser le temps aux gens et les laisser faire leur vie comme ils veulent. Ça leur permettrait de relativiser, d'être plus terre à terre, d'avoir plus la conscience, en fait, que le bien-être interne, psychologique, est beaucoup plus important que le paraître, en fait. Et on vit trop dans le paraître aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça que j'aimerais conclure pour ma part.
Malo,
oui, bah, une conclusion. Je suis d'accord avec ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Et puis ouais, c'est... Je pense que c'est un rapport avec la haine, tout ça, tu vois. Genre, c'est... Faut qu'on s'aime plus, quoi.
C'est ça. On est tous mortels.
Elena.
Moi, je pense qu'il ne faudrait pas oublier que derrière toute phase négative ou derrière tout ce qui est négatif, en fait, se cache du positif. Il faut savoir le trouver et le garder près de soi.
Bon, Sauvane.
Eh bien, rien de plus, à part que user de bienveillance envers notre prochain. Parce qu'on va tous crever un jour, alors autant profiter ensemble.
Autant s'aimer.
Autant s'aimer, autant s'aider, quoi, putain.
Exactement.
Et continuer à se battre contre le système.
On ne perdra jamais de temps à s'aimer, évidemment.
Voilà.
Merci à vous, merci
Christelle,
merci Elena, merci Sauvane, voilà pour ce petit débat pour la Rédac Pop.
Eh bien, merci à vous.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
I love him cause he might be white, but every time I feel that smack, I want him more cause he's almost
Weya, weya. Sur Radio Campus. Tu connais pas ? Normal. C'est la nouveauté.
I'm gonna make it. these bloodstained sheets. I'm fucking sick and I ain't trying to eat. Sexual attraction, dumb and young enough. My actions keep on haunting me. My demons are my bitch when I sleep. And my slave name is all she screams in. Deep enough in Vaseline, I'm going extra hard. And when I come, yuck, do you want me? No, fuck me. Do you want me? No, fuck me. The glow crystal clear through my window pane. The pain of my soul soaking in like